Chers auditeurs, chères auditrices de Mets de Résistance, Radio Mono, Chalon Champagne et Radio Galère Marseille 88.4, aujourd'hui nous allons parler des États-Unis. Alors vous allez être très surpris parce qu'en général on n'a pas l'habitude de parler des États-Unis à Mets de Résistance, étant donné qu'on présente toutes les résistances du passé, du présent, du futur, souvent du territoire qui émane du territoire français, puisque en France nous savons que nous avons eu un phénomène social et politique qui s'appelait la résistance française pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est pour ça, c'est en hommage à cette résistance-là que régulièrement, tous les lundis soirs sur Radio Galère et tous les jeudis et tous les un jeudi soir sur deux sur Radio Mono Chalon Champagne, je présente des résistants au quotidien, du passé, du présent ou du futur, et surtout j'aime beaucoup les résistants du présent. Et aujourd'hui je vais vous présenter une archiviste, parce que être archiviste c'est aussi être résistant, c'est résister contre quelque chose qui est très dur à accepter, qui est l'oubli du passé, l'usure du temps. Je vous présente donc Laura Cellier, qui est archiviste à la médiathèque à Chalon-Champagne, à la mairie de Chalon-Champagne. Elle travaille aux archives qui sont situées dans un local que mes auditeurs connaissent bien, qui est la médiathèque Pompidou à Chalon-Champagne.
Alors je tiens à préciser, je sais pas si... Donc Laura Cellier, je suis responsable du service des archives et du coup je travaille en partie à la médiathèque, mais nous on est sur 3 sites. Donc pour ma part je travaille à Comclose, mais là actuellement donc, on a monté pour le service des archives municipales et communautaires de la ville de Chalon-en-Champagne une exposition relative aux soldats inconnus américains. Et oui, américains, puisqu'en effet le soldat inconnu américain a été choisi à Chalon-sur-Marne donc il y a 100 ans. Et dans le cadre du centenaire, la municipalité a décidé donc de choisir de présenter les fonds des archives municipales pour l'occasion. Et donc, une exposition a été construite à cette occasion.
Merci, Laure, d'entamer si bien cette émission en nous expliquant pourquoi on parle des États-Unis. Laura, pardon. Excusez, Laura, comme dans la petite maison dans la prairie, vous connaissez. Et c'est une héroïne que tout le monde connaît, qui est résistante aussi. Justement, elle est américaine et je vous remercie, Laura, de nous expliquer pourquoi on parle aujourd'hui des États-Unis, parce qu'effectivement, il y a peu de gens qui le savent. Tout le monde connaît un petit peu le site de Arlington, qui est le cimetière militaire officiel des États-Unis d'Amérique, qui est situé à côté de Washington, dans une commune qui s'appelle Arlington. Il y a notamment dans cet endroit un lieu très important qui est sacré, qui est surveillé d'ailleurs par l'armée américaine 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, qui est le tombeau du soldat inconnu américain, une tombe blanche qui est un lieu symbolique où énormément de manifestations ou de rencontres autour du président des États-Unis se font. Et donc c'est un lieu mythique qui est très connu, qu'on a vu dans de nombreux films, qui ne connaît pas justement, qui n'a pas vu les images d'archives où on voit Jackie Kennedy après la mort de John Fitzgerald Kennedy aux côtés du staff de l'état-major et du staff politique de l'état fédéral américain. Pas très loin de cette tombe très blanche, c'est d'ailleurs ce sont des images très marquantes parce que elle-même est habillée en noir puisqu'elle est, elle porte un habit de veuve et il y a cette tombe blanche qui est juste à côté. Enfin, c'est très très symbolique. Je vais continuer à parler de l'histoire du soldat américain. A priori, on peut se demander quel est le rapport entre le soldat inconnu américain, le cimetière d'Arlington, toute la symbolique liée à la possibilité d'une politique de neutralité et comme au temps du président Wilson de la part des États-Unis. C'est pour moi ce que symbolise cette tombe blanche à côté de laquelle on avait posé la veuve de John Fitzgerald Kennedy. Et donc, c'est pour ça que j'en parle, on peut se demander a priori ce que ça a à voir avec la France. Alors je vais vous l'expliquer tout de suite, ou peut-être, c'est bien, peut-être que ce soit Laura qui nous l'explique. Je veux juste dire qu'on est au printemps 1917, après 3 ans de neutralité, les États-Unis entrent en guerre aux côtés des Alliés le 6 avril 1917, Une mobilisation qui est précipitée par deux événements. D'abord, l'Allemagne déclare la guerre sous-marine aux navires neutres commerçant avec l'Entente. Et d'autre part, les services de renseignement britanniques interceptent un télégramme du ministre allemand des Affaires étrangères, Zimmermann, qui demande à son ambassadeur à Mexico de négocier une alliance avec le Mexique contre les États-Unis. Donc on voit qu'à l'époque, il y avait des rapports géopolitiques qui se mettaient en place, avec d'un côté ce qu'on appelle l'entente avec, entre l'Italie, l'Allemagne et l'URSS, hein, il me semble. Pardon. Oui, pardon.
Avec... La Russie, c'était pas encore l'URSS à l'époque.
À l'époque, c'était encore la Russie, bien sûr. On était avant 45. On a souvent tendance à confondre les deux conflits.
Du coup, oui, c'est l'entente, c'était les alliés. Donc, les alliés, c'était donc la France, le Royaume-Uni, et ensuite donc les États-Unis qui sont arrivés en renfort seulement. Donc, comme vous venez de le dire, trois ans après le début du conflit. Et donc, à savoir qu'à ce moment-là, les Américains vont venir quand même renforcer les troupes françaises et britanniques, donc sur le sol français, hein, bien entendu, puisque c'était la France qui était au centre des conflits physiquement sur son sol. Et donc, du coup, ils sont venus en force, à peu près 2 millions de soldats américains donc sont venus en Europe. Et à savoir que, quand même, jusqu'à la fin du conflit, donc un an plus tard, plus de 110 000 d'entre eux vont périr durant le conflit armé.
Oui. Donc, je rappelle que les Alliés sont restés 3 années dans les tranchées et l'arrivée d'Américains a apporté un soutien moral et physique aux troupes. Et entre fin 1917 et la fin du conflit, vous dites, il y aura eu 2 millions de soldats américains envoyés en Europe. Et vous dites, il y aura 116 000 soldats américains
qui auront donné leur vie pour justement amener la victoire aux Alliés.
Voilà. Alors, il faut bien se mettre replacer dans le contexte de l'époque. Ces 116 000 soldats américains, ils sont très importants parce que ils sont venus donner leur vie pour ramener la paix officiellement. On est bientôt le 11 novembre 1918. D'ailleurs, Laura, quand on diffusera cette émission, le 11 novembre 1918 sera pas, le 11 novembre sera passé puisque c'est ce jeudi. Je voudrais juste préciser que à cette époque-là, il y avait une symbolique très importante puisque dès 1919, il y a les accords de Paris qui donc ont lieu à Paris. Ce sont des accords pour faire la paix et pour réconcilier les différentes parties entre elles par l'intermédiaire de traités. C'est la France qui en est responsable. Mais le président Wilson, qui était alors le président des États-Unis, qui à l'époque s'efforçait de mettre en pratique une politique de non-ingérence dans les affaires des États. C'était la politique américaine de l'époque, c'est issu de la doctrine Monroe. Et c'est quand même déplacé parce que dans un cas comme cette guerre mondiale de 1914-1918 qui avait eu un impact aussi important, les Américains ne pouvaient qu'intervenir. Et donc le président Wilson avait présenté d'ailleurs 14 points pour la paix dans le monde. Et à l'époque, il y avait déjà eu, on le sait bien à Châlons puisque c'est la ville de Léon Bourgeois, il y avait déjà eu 2 traités de paix. Un, je crois, en 1797, il me semble, et un deuxième en 1907. Il me semble que c'est ça. Ce sont 2 traités de paix qui avaient été menés à l'initiative de Léon Bourgeois. À l'initiative de la Russie, mais et dans lesquels Léon Bourgeois avait joué un rôle très important. Et c'est à l'issue de ces deux conférences pour la paix qu'ont été mis en place les premiers principes d'une organisation internationale qui œuvrerait pour la paix dans le monde. Et à l'époque, c'était la SDN, la Société des Nations, qui est un des principaux, bien sûr, parce qu'il y en a eu d'autres. Il y a eu notamment tous ces traités de paix entre les anciens belligérants de la guerre 14-18. Un des principaux résultats positifs de ces 2 traités de paix, puis des accords de Paris, donc ça fait 3 sommets importants, va être justement la Société des Nations. Et le président Wilson citera 14 points pour la paix dans le monde, parmi lesquels il y aura celle d'une approbation, enfin, les États-Unis d'Amérique approuvent l'idée d'une société des nations. Donc c'est les débuts d'une première tentative de gestion des conflits dans le monde par le droit international. Et c'est très important. Et donc, c'est pour ça que ces 116 000 soldats américains, ils sont très, très importants et on doit s'en souvenir. Et dans notre région, on les commémore. On est dans la région Grand Est, Châlons-Champagne, c'est la Marne. C'est pas très loin des principaux sites où se sont déroulées les grandes batailles de la guerre 14-18. Je vous laisse en parler, Laura.
Oui, entre autres, hein, bien entendu, la fameuse bataille de Verdun, mais aussi la bataille de la Somme ou encore le chemin des Dames. D'ailleurs, le projet du soldat inconnu français, et on va déjà parler par, commencer par le projet du soldat inconnu français, donc à savoir que le choix du soldat inconnu a eu lieu donc à la citadelle de Verdun. Pour effectuer ce choix, 8 corps de soldats inconnus avaient été exhumés de 4 batailles, justement, dont Verdun, Chemin des Dames, la Somme, bien entendu. Et donc, de ces 8 sites, donc, ont été choisis ces 8 soldats inconnus par Augustin Tin, donc un jeune soldat de 21 ans, qui donc a désigné le soldat inconnu français le 10 novembre 1920. Et donc, ce choix, il l'explique. Hein. Contrairement aux soldats inconnus américains, où on verra que le choix est plutôt... il n'y a pas une symbolique. En revanche, pour Augustin Tin, il l'explique parce qu'en fait, il faisait partie du 6e corps. Donc, il a décidé de choisir le 6e cercueil. Et d'autant plus qu'il faisait partie du 132e régiment d'infanterie. Et donc, s'il additionnait les chiffres de son régiment, il arrivait au nombre 6. Donc, tout ça, ça a fait en sorte que, voilà, il choisisse le 6e cercueil. Ces cercueils-là, donc, à la citadelle de Verdun, ont ensuite, bon, pour les 7 autres, ont été exhumés, donc, à Verdun. En revanche, pour...
Donc, ce qui veut dire, pour les gens qui ont envie d'aller sur place pour, à Verdun pour se promener et pour faire une commémoration personnelle ou simplement pour faire une visite touristique, il y a, à Verdun, il y a tout ce qu'il faut. Il y a un office du tourisme avec beaucoup d'activités qui se prennent en charge les touristes qui ont envie de savoir et de toucher de près ce qui s'est passé pendant la guerre 14-18 avec ces anciens vestiges, ces forts, ces tranchées qui sont encore... et le fort de Douaumont et également, et même le centre de Verdun qui possède des souterrains pendant lesquels il y a eu des choses importantes qui se sont déroulées pendant la guerre des tranchées. Vous savez que vous pouvez aller vous recueillir sur la tombe des 7 soldats inconnus qui n'ont pas été choisis pour être les 6 parmi lesquels le choix allait se faire. Du soldat inconnu qui allait retourner
à Paris,
puis aux États-Unis pour être...
On est sur le français, là.
Ah, là, on est encore sur le français, pardon.
Oui, du coup, pour ce qui est justement du soldat inconnu américain, en revanche, bien entendu, il a été initié selon... En fait, ils ont été impressionnés par le projet français d'enterrer donc notre soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Il faut savoir que l'Arc de Triomphe n'était pas... a été décidé seulement en octobre 1920 par la Chambre des députés et c'est seulement après, donc en novembre, qu'il a été choisi, donc le 10 novembre.
Pardon, j'ai juste une petite question à vous poser. Vous dites l'Arc de Triomphe a été choisi comme lieu de mémoire, hein, c'est bien ça, il me semble. Parce que là, j'en profite pour faire un petit rappel à nos auditeurs, un petit rappel très rapide, pour leur dire que effectivement, le 11 novembre, on commémore la mort du soldat inconnu. Et comme lieu de mémoire, à l'époque, comme vous le dites si bien, Laura, c'est l'Arc de Triomphe, qui est un lieu symbolique de la République française, qui est choisi. Mais auparavant, il y a un choix qui se fait.
Oui, en effet, il y a eu un choix entre l'Arc de Triomphe et le Panthéon. Mais l'Arc de Triomphe a été choisi, comme je viens de l'évoquer, par la Chambre, donc en 1920. Et c'est après seulement qu'a eu le choix le 10 novembre 1920. Et en revanche, les cérémonies, donc la cérémonie solennelle donc, du soldat inconnu français a eu lieu le 11 novembre. Mais à savoir quand même que la petite anecdote, c'est de se rappeler qu'il a seulement été donc, enterré en janvier de l'année suivante, donc en 1920-21. Et la flamme symbolique qu'on l'on voit a été seulement initiée en 1923, qui ravivait tous les jours à 18h30, en mémoire justement de tous les soldats inconnus morts au combat pendant la guerre 14-18. La guerre 14-18 a été assez... Donc avec le nouvel armement, on a eu beaucoup de soldats inconnus puisqu'on n'arrivait plus à identifier nos soldats. Et on en a eu de nombreux, donc en France, mais aussi les Britanniques. À savoir qu'en 1919, les Britanniques avaient plus de 110 000 soldats non identifiés. Et c'est pourquoi aussi chez eux, le projet du soldat inconnu britannique a vite été... est vite arrivé dans leur esprit et ont aussi donc ils ont aussi donc choisi un soldat inconnu britannique pour représenter tous les soldats morts au combat. Et ce soldat britannique inconnu a été exhumé lui en revanche à Westminster. Donc les Français et les Britanniques avaient justement un monument phare pour enterrer leurs soldats inconnus. Ce qui n'était pas le cas des États-Unis. Alors on va en revenir justement aux soldats inconnus américains. Et c'est vrai que le général de brigade, donc William Connor, commandant des forces américaines, avait été impressionné par ces projets de cérémonie européenne. Et donc, il a proposé la même chose pour les États-Unis le 29 octobre 1919 au général Peyton, chef d'état-major de l'armée américaine. Cependant, le général Marsh, hein, au tout départ, n'approuve pas ce projet, puisqu'en effet, le choix des Américains, de prime abord, est d'identifier tous leurs soldats morts sur le sol français. À savoir que, comme je l'évoquais plus tôt, en 1919, 110 000 soldats britanniques étaient non identifiés. A contrario, 1200 soldats américains n'étaient pas identifiés. Donc la marge était quand même très minime et donc sur ces 1200 soldats, la priorité était de les identifier. Cependant, le général Marsh précise que malgré tout, si le Congrès américain venait à approuver le projet, il le soutiendrait. Et une autre problématique se posait aussi hein, quant à choisir un soldat inconnu américain, c'était le rapatriement du corps jusqu'aux États-Unis, puisqu'en effet, le soldat inconnu était forcément sur le sol français. Donc, c'est le député Hamilton qui va résoudre cette problématique le 21 décembre 1920 et va donc décider de rapatrier, va proposer de rapatrier les restes en l'accueillant déjà pendant les cérémonies officielles du 11 novembre. Au cimetière national d'Arlington, Arlington, c'est près de Washington, c'est un cimetière américain militaire où sont inhumés tous les soldats inconnus de toutes les guerres américaines. Donc c'était le lieu qui convenait le mieux aux États-Unis. Et de plus, il fallait choisir aussi une ville en France qui aurait permis de rapatrier jusqu'à un port pour l'embarcation jusqu'aux États-Unis. C'est pourquoi Chalon-sur-Marne a été choisi, puisque c'est un important nœud ferroviaire. Et de plus aussi, Chalon a été choisi pour une deuxième raison, puisqu'il était au centre des quatre zones d'exhumation des corps des quatre soldats inconnus américains, à savoir Boisbello dans l'Aisne, Bonny dans la Somme, Romagne-sous-Montfaucon dans la Meuse et Thiaucourt dans la Meurthe-et-Moselle. Alors ensuite, bien entendu, donc Chalon-sur-Marne est choisi comme lieu du choix du soldat inconnu américain. La date est fixée au 24 octobre 1921, après que le Congrès américain ait accepté ce projet, donc en mars 1921. Durant ce congrès, il a aussi voté le budget pour l'édification du tombeau à Arlington, bien entendu. Donc on est fixé sur la date du 24 octobre 1920 à Chalon. Et nous, aux archives, on a justement exposé des documents qui évoquent cette cérémonie de 1921. Puisqu'en effet, pour la commémoration du centenaire, il me semblait important de sortir de nos fonds d'archives les collections qui correspondaient, à savoir que toutes les collections présentées dans nos vitrines, au nombre de 6 vitrines, sont tous des documents des archives municipales et pour ce qui est des photographies, elles proviennent des fonds patrimoniaux de mes collègues de la médiathèque Pompidou.
Merci beaucoup Laura. Je voudrais juste rappeler à nos auditeurs, enfin je récapitule un petit peu pour nos auditeurs. Pendant la guerre de 14-18, à la fin de la guerre, il se pose le choix pour l'opportunité pour les Français et les Anglais d'enterrer un soldat inconnu dans un lieu symbolique. Et les Américains, qui n'étaient pas en reste, puisque beaucoup de jeunes Américains se sont expatriés pour venir aider les Européens à gagner contre les Allemands, décide de faire la même chose. Le 4 mars 1921, le 66e congrès accepte le projet et vote le budget pour l'édification du monument funéraire au cimetière d'Arlington, un lieu très connu dont je parlais tout à l'heure. Et on choisit Chalon-sur-Marne, qui à l'époque s'appelait encore Chalon-sur-Marne et non pas encore Chalon-Champagne, le nom a changé plus tard. Pourquoi est-ce que Chalon a été choisi? Je le dis puisque Laura ne l'a pas dit tout à l'heure. C'est parce que Chalon-Champagne, ça restait sur Marne, ça restait un lieu très important, ce qu'on appelle un nœud ferroviaire, c'est-à-dire qu'il y avait, c'est une gare qui permet d'aller rapidement à Paris et ensuite au Havre, puisque le soldat inconnu allait passer la nuit à Paris et ensuite il allait être amené au port du Havre où une nouvelle cérémonie l'attendait, pour ensuite prendre un bateau qui allait l'amener jusqu'aux États-Unis.
Ça, c'est la suite de l'exposition,
on le verra tout à l'heure. Alors, on va en revenir aux images d'archives dont Laura vous a parlé tout à l'heure. Et je vais la laisser s'exprimer sur ces archives. Je vais quand même poser deux ou trois petites questions. Effectivement, on voit des photos anciennes. Alors, c'est amusant parce qu'il y a une vidéo aussi. Je me suis amusée à regarder la vidéo et les photos. On voit Chalon comme à l'époque. Ça n'a pas beaucoup changé, en fait, finalement, Chalon-Champagne.
Oui, donc du coup, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, les trois temps forts, en fait, du soldat inconnu américain, donc à savoir le choix du soldat, la cérémonie du choix du soldat inconnu américain le 24 octobre à Chalon-sur-Marne, dès le lendemain, le 27 octobre au port du Havre, où aura lieu une cérémonie de remise de la Croix de la Légion d'honneur. Donc l'exposition se veut chronologique, et donc on finit avec la cérémonie du 25 octobre. Mais avant de parler du 24 et du 25, on va déjà commencer par le 22 octobre. Alors, la première vitrine qui est exposée nous montre justement un plan qu'on a dans nos archives du péristyle de l'hôtel de ville de Chalon-sur-Marne, puisqu'il est important de dire aussi que le lieu du choix de la cérémonie était donc l'hôtel de ville. Et donc sur ce plan, on peut voir la disposition qui avait été réalisée pour la cérémonie. À savoir aussi que les fonds photographiques et une note écrite expliquent que les corps, en fait, les quatre donc soldats inconnus, comme je l'évoquais, des quatre lieux d'exhumation, sont arrivés par camion automobile le 22 octobre 1921. Et c'est ce qu'on voit sur une des images où on voit le 106e régiment d'infanterie, donc un régiment basé, dont la garnison est basée à Chalon-sur-Marne, recevoir les quatre soldats inconnus américains. Quatre soldats qui seront disposés donc le 23. En effet, donc j'ai fait un petit aparté et donc le 22, c'est l'examination des corps des quatre cimetières qu'on a cités. Ces corps vont être ensuite examinés par les forces expéditionnaires américaines, après quoi avoir constaté donc que leur décès était dû à une blessure de guerre. Ils sont donc arrivés dès le 23 octobre, donc par camion automobile, comme on peut le voir sur l'une des images présentées en vitrine. Ces quatre cercueils ont été placés dans quatre cercueils plombés identiques qui ne permettaient pas la distinction de leur lieu d'exhumation et aussi leur anonymat. Ils ont été placés donc dans l'aile droite du péristyle, comme on peut le voir sur le plan, dès le 23 et étaient accessibles donc aux Chalonnais à l'époque pour pouvoir justement leur rendre hommage.
Oui. Et c'est très amusant parce que sur la vidéo, on voit bien, ils sont alignés tous les quatre, les uns côté des autres, dans sur le dessin, Oui, ils sont alignés sur le plan. Ils sont alignés au centre de l'hôtel de ville, qui est magnifique d'ailleurs, le hall d'entrée de l'hôtel de ville. C'est superbe, c'est vraiment à voir pour quelqu'un qui ne connaît pas Chalon ou qui a envie de visiter. Et j'ai vu sur la vidéo qu'à l'époque, il y avait des fleurs partout, et notamment des roses blanches. Alors, je voudrais quand même raconter la petite anecdote de la rose blanche. Ouais, d'accord. Ok. Allez, je vous laisse, Laura.
Oui, du coup, je disais, donc, le 23 octobre 1921, sont accueillis donc les quatre cercueils. Quatre cercueils qui vont être disposés déjà au public et donc aux commémorations dès le 23. Le 23 au soir, il va y avoir une veillée. Et donc, j'ai coupé l'herbe sous le pied de Mad. Mais donc, c'est que le 24 qu'il va y avoir les roses blanches au final. Donc, le lendemain. Le 23, il va y avoir la veillée funéraire.
Je voulais parler de la décoration au sein de l'hôtel de ville. Il y avait une décoration qui était magnifique avec des fleurs partout. Enfin, à peu près 400 roses blanches. Alors, dernièrement, le 24 octobre dernier, il y a eu une cérémonie à Châlons-Champagne, le 24 octobre 2021, où se sont rendus beaucoup de gens qui étaient plus ou moins concernés de loin par cette cérémonie. Et il y a eu une commémoration de la cérémonie avec des soldats américains et puis des militaires français également. Le maire, le préfet de Châlons. Donc à l'occasion de cette inauguration, l'exposition sur le soldat inconnu américain a été dressée au centre justement de l'hôtel de ville, là où étaient disposés les fameux quatre soldats inconnus entre lesquels on allait choisir. Entre ils étaient, enfin, c'est-à-dire dans le hall de ville, dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville, pas au même endroit exactement, mais enfin quand même dans le hall d'entrée de l'hôtel de ville. Et pour l'occasion, eh bien, en commémoration, exactement comme ça s'est fait en 1921, il y avait au centre de l'hôtel de ville de Châlons-Champagne des roses blanches de partout. Et Laura va nous expliquer tout à l'heure pourquoi la rose blanche.
Oui, alors il faut savoir que pour le centenaire, en effet, des roses blanches avaient été disposées. En revanche, comme le plan l'indique et comme la note écrite qui a été accompagnée en 1921 l'indique également, la volonté des États-Unis était vraiment de faire une cérémonie très sobre. Et qui veut dire très sobre dit très peu de décorations. Donc en fait, les décorations étaient surtout posées à l'extérieur de Châlons-en-Champagne. Comme on peut le voir sur certaines images, il y avait de nombreux drapeaux aux couleurs américaines et aussi quatre banderoles qui avaient été disposées à différents endroits de l'hôtel de ville. Donc à savoir « Gloire aux héros inconnus américains à la porte de la Marne ». Donc comme on peut le voir sur l'une des photos qui est présente sur un panneau d'exposition. Mais également « Honneur aux braves » ou encore « Souvenirs et reconnaissantes » et « Honneur aux américains ». Et ces quatre panneaux ont été votés et sont visibles, en fait, et lisibles dans notre registre des délibérations de 1921, puisqu'à savoir que cette exposition retrace vraiment toute l'historique du 24 octobre, donc à partir du 22, de l'examination des corps, du 23 de leur arrivée et du 24 du choix de la cérémonie. Donc, en revanche, l'hôtel de ville était disposé différemment. Il y avait seulement des teintures blanches au niveau du vestibule de l'hôtel de ville qui servait de chapelle ardente où les quatre corps étaient placés. Et également des fusains qui avaient été prêtés par le musée Garinet, comme l'indique la note que l'on peut voir. Et donc, aussi sur...
Le musée Garinet, que mes auditeurs connaissent bien, puisqu'on a déjà fait avec Aude, qui travaille au patrimoine de la ville de Châlons, une visite déambulatoire au sein du musée Garinet pour vous faire profiter un petit peu des richesses de ce musée.
Et donc, pour finir cette vitrine, donc on a placé un portrait du sergent Edward F. Jungen, qui est donc été le jeune soldat américain qui a désigné le soldat inconnu américain.
Donc, il a choisi entre quatre cercueils.
Voilà. Et donc, on va passer à la vitrine suivante et au panneau d'exposition suivant. Donc, la cérémonie du choix, comme on l'indique dans ce panneau, en fait, a lieu vraiment à 10 heures. Parce qu'on va vraiment, dans notre exposition, chiffrer par créneau horaire, finalement, tout le déroulé de la cérémonie de 1921. Donc, à 10h, après donc, les offices, le général Duport, donc commandant de la 6e corps d'armée, donc, salue les 4 soldats inconnus américains. Il prend la parole, bien sûr, pour exprimer sa gratitude, sa reconnaissance envers l'Amérique, qui, donc, l'armée américaine qui a apporté sa contribution et qui a contribué à la victoire commune. Bien entendu, c'est, comme je l'indiquais, le 106e régiment d'infanterie basé à Châlons-sur-Marne qui a fait les offices. C'est également eux qui ont accueilli les 4 soldats. Et donc, après la marche funéraire de la mort d'Azeux, de Grillé, seulement après, donc le sergent Edward Younger, donc héros de guerre blessé de reprise, s'avancera vers les 4 cercueils au fond de l'hôtel de ville de Châlons-sur-Marne. Or, je tiens à préciser aussi que malgré toutes les photos d'iconographie et les vidéos aussi, puisque 2 vidéos sont visibles dans l'exposition, hormis le plan du péristyle de l'hôtel de ville, nous n'avons pas d'image iconographique ni de détails de ce qui s'est passé à l'intérieur de l'hôtel de ville au moment du choix de la cérémonie. L'historique qui est évoqué ici est basé sur les détails, comme je l'évoquais, donc des documents d'archives et d'articles de presse, comme archives comme les conseils des délibérations, et articles de presse que j'ai dû recouper pour pouvoir redresser en fait l'historique heure par heure de ce qui s'était passé à l'intérieur de l'hôtel de ville. La seule image vraiment qu'on a de l'intérieur du péristyle, c'est le catafalque. Le catafalque, qu'est-ce que c'est ? C'est une estrade funéraire que l'on voit souvent d'ailleurs apparaître hein, quand on tape même soldat inconnu américain sur Internet, puisqu'en effet, ce catafalque a la particularité en fait d'être monté donc par une garde d'honneur. Alors, avant, bien entendu, le catafalque, c'était l'estrade funéraire dédiée aux soldats inconnus américains. Il faut savoir que avant, le sergent a bien entendu choisi parmi les 4 cercueils. Il a choisi donc le 3e à gauche, après avoir fait deux fois le tour des cercueils. Et il a désigné, donc en France, nous, on avait désigné avec des œillets blancs et rouges. Et bien, les Américains ont désigné le soldat inconnu américain par le biais de roses blanches qui avaient été cueillies, pour la petite anecdote, dans un jardin chalonné. Et donc, après le choix officiel du sergent...
On ne sait pas dans quelle maison, dans quel jardin.
J'ai lu des choses, mais après ça reste de la presse. Alors est-ce que c'est de l'info, de l'intox ? On peut pas. J'avais lu par exemple que c'était. Après, je me méfie de ce genre de sources parce qu'on n'est jamais sûr, bien entendu. Mais j'avais lu que c'était par rapport à des chalonnets qui avaient donné puisque leurs 2 fils étaient morts à la guerre.
D'accord.
Voilà. Bon après c'est une petite anecdote, mais est-ce qu'elle est véridique ou pas ? Apprendre avec des pincettes, bien entendu. Donc, après que le sergent ait désigné le soldat inconnu américain, il est mis en bière à l'opposé. Donc, c'est ce qu'on peut voir sur le plan de l'hôtel de ville. Il est désigné, en fait, dans l'aile opposée. Donc, le 106e RI va encore porter donc, le cercueil jusqu'à l'aile opposée pour la mise en bière. La mise en bière, on a le détail. Il a été placé dans un cercueil en ébène avec un velours noir et des poignées en or massif. Il y avait une inscription, hein, bien entendu, en bas, « An unknown soldier who gave his life in the World War ». Alors, je suis désolée pour mon anglais. Donc, un soldat inconnu d'Amérique qui a donné sa vie dans la guerre mondiale.
Vous vous débrouillez très bien pour l'accent, faut pas vous inquiéter.
Donc voilà.
Alors,
donc,
si je voudrais quand même dire quelque chose. Donc c'est pour ça que je fais un rappel. Après Laura, je vais vous laisser continuer pour dire effectivement ces soldats-là, ces 116 000 soldats qui sont morts au front sont très importants symboliquement à la fois pour les Européens mais aussi dans l'inconscient collectif américain parce qu'ils ont donné la vie pour la paix dans le monde. Donc un concept important qu'on va voir, qui va être véhiculé lors de la conférence de Paris et lors de la création officielle de la Société des Nations, puis
et ça va continuer après avec l'Organisation des Nations Unies en 1945. Et ça continue encore aujourd'hui avec l'avènement d'un droit international qui n'a pas encore valeur, qui n'a pas encore la primauté sur les droits nationaux et une Cour de justice internationale. Mais quand même, l'idée fait son chemin et l'Organisation des Nations Unies a joué un rôle important, même si on ne l'écoute pas toujours. Et il y a quand même, il ne faut jamais cracher dans la soupe, comme on dit, et prendre ce qu'on a. Et c'est très important. C'est pour ça que ce soldat inconnu qui a intérêt à Arlington est important. Il représente également, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, que cette tombe blanche à côté de laquelle on a vu se profiler la robe noire d'une veuve d'un président des États-Unis, qu'on peut encore revoir dans des images d'archives, représente l'idée d'une politique internationale menée par les États-Unis en faveur de la paix dans le monde, et qui fait un rappel au clin d'œil que les États-Unis d'Amérique, malgré leur comportement parfois un peu belligérant et hégémonique, arrive quand même à mener lorsque l'occasion se présente et lorsque les circonstances sont graves. Donc ça représente quelque part la valeur des États-Unis.
Je vous remercie. Du coup, pour en revenir donc à la mise en bière, donc le cercueil du soldat inconnu américain est mis en bière, après quoi il a été placé donc sur le fameux catafalque, donc l'estrade funéraire que je vous évoquais plus tôt, au centre du péristyle de l'hôtel de ville. De 13h à 16h exactement. Donc c'est la suite en un fait. Donc, alors tout ceci est alimenté par deux vidéos aussi sur lesquelles il me semble important de pouvoir faire un petit commentaire, puisqu'en effet on voit notamment ce catafalque, justement où les chalonnés peuvent venir voir ce qui s'est passé en fait à l'époque. Alors, donc en fait, la cérémonie du choix du soldat inconnu américain, comme je l'évoquais, on connaît surtout donc le catafalque, il a été placé et mis à disposition en fait pour les derniers honneurs de 13h à 16h. Donc on voit notamment dans les vidéos qui viennent du site Critical Past, donc c'est un site américain, et ce sont deux vidéos. Donc la première que l'on visionne actuellement, donc qui est une vidéo qui montre le cercueil du soldat inconnu américain dans l'hôtel de ville, donc le catafalque, où l'on peut voir les citoyens français justement rendre un dernier hommage au soldat inconnu américain avant son départ. Donc son départ, ce sera à 17h de l'hôtel de ville. Donc, à ce moment-là, place Foch...
Oui, il part tard, c'est ce que les commentateurs avaient fait remarquer.
Oui, donc à savoir aussi que là, si on voit les visuels, hein, le 24 octobre, donc qui est un lundi, on voit de nombreux chalonnés sur la place Foch. Place Foch, c'est devant le parvis de l'hôtel de ville, parce qu'à savoir que M. Servaz, donc maire de l'époque, avait donné l'autorisation aux employés de donner congé aux employés. Et donc, à contrario, bien sûr, ce congé, c'était un congé sans lettre, hein, puisqu'ils avaient travaillé le samedi matin. Mais beaucoup et de nombreux chalonnés avaient tenu à pouvoir assister à cette cérémonie. Et donc là, on voit le catafalque, justement, où on a une garde d'honneur qui tient cette garde pendant 3 heures. C'est ce qui a été aussi reproduit lors du centenaire, donc avec 6 soldats américains et 6 soldats français. On voit également un petit portrait du sergent Jungen, donc, qui a choisi le soldat inconnu américain. Puis l'arrivée du sergent Allen. Sergent Allen, donc commandant les troupes américains en Rhénanie, donc qui va arriver pour faire les discours accompagnés de M. Servat. Donc les discours d'honneur vont avoir lieu seulement à 17h devant le parvis de l'hôtel de ville. Et c'est ce qu'on peut voir sur les vidéos. Et donc après ces discours, le cercueil du soldat va partir jusqu'à la gare de Châlons-Champagne sous un défilé. Défilé que l'on peut voir dans nos archives, puisqu'on a le défilé, on a un document de tous les militaires qui ont défilé dans cette cérémonie. Et également, de nombreuses associations patriotiques ont suivi le cortège, dont la Lyre Chalonnaise, dont on a les membres présents. Donc, comme on peut le voir juste avant le départ du cercueil, toutes ces gerbes de fleurs et ces palmes d'or le suivent en amont. Et à savoir que ces palmes, la palme d'or avait été offerte par la ville. Et de nombreuses gerbes de fleurs, par exemple, ont été offertes par les associations patriotiques, également le Conseil général. Donc le cercueil va arriver à l'égard bien tardivement, et notamment, comme vous l'évoquez, un peu tardivement, puisque dans de nombreux articles de presse que j'ai pu lire, ils disent qu'il fait bien nuit quand il arrive. Et donc c'est le 106e Eric qui va scander une dernière fois donc l'hymne national américain avant son départ de Châlons-sur-Marne, où on le voit partir donc, et après une traversée donc il arrivera au Havre. Je voulais mettre sur pause, mais voilà. Et donc, c'est notre dernier panneau d'exposition, justement, qui évoque ce départ du cercueil. Et c'est également notre troisième vitrine qui évoque le départ du cercueil. Donc, à savoir que le cercueil est placé donc sur un affût de canon qui lui sert de char triomphal et défile donc jusqu'à la gare, où on peut voir sur de nombreuses images le nombre de personnes qui étaient... même là, on voit, donc ça, c'est... Oh, les ponts juste avant la gare, on voit qu'il y a encore des chalonnés qui s'échelonnent vraiment tout le long du parcours. Et donc, à savoir que dans ces sociétés patriotiques, comme je l'évoquais, il y avait par exemple l'Union nationale des combattants, les vétérans 1585e section, et cette marche était fermée donc par la compagnie des sapeurs-pompiers. En tant que militaire, il y avait bien sûr le 106e régiment d'infanterie, mais aussi les 25e et 40e régiments d'artillerie. De nombreux régiments étaient présents, en plus de ces associations. Et donc, ce n'est que le lendemain que le cercueil va arriver au port du Havre, avant un petit arrêt donc à la gare de Batignolles vers 21h. Après quoi il repartira donc seulement le lendemain, donc on est le 25 octobre 1921, pour le Havre. Et le Havre, il faut savoir que pour monter l'exposition, j'ai eu un contact avec les archives municipales du Havre, donc notamment avec Pierre Bonmont, le directeur, qui nous a confié des archives numériques pour l'occasion. Donc on en a une qui est exposée sur un de nos panneaux d'exposition, qui montre justement Monsieur Maginot, ministre des Pensions, qui dépose la croix de la Légion d'honneur sur le cercueil.
Monsieur Maginot était alors ministre de la Guerre. Je rappelle à nos auditeurs qu'il était quand même très connu en France, puisque c'était lui qui était l'auteur de la fameuse ligne Maginot, cette série de, comment on peut appeler ça, de remparts militaires qui sont encore visibles aujourd'hui dans le Grand Est, dans tout le Grand Est, aussi bien en Alsace qu'en Lorraine ou dans les Ardennes. Et effectivement, il dépose sur le cercueil du soldat inconnu américain la croix de la Légion d'honneur. Donc c'est très intéressant. Ce soldat inconnu qui est enterré à Arlington, aux États-Unis, dans le cimetière le plus connu des États-Unis d'Amérique, qui représente l'intégrité du Congrès et du pouvoir politique américain et son importance dans le monde, à la Légion d'honneur. Mais ce n'est pas la seule assigne d'honneur qu'il pose. Il y a ces fameuses roses blanches qui ne quitteront pas le tombeau pendant tout le trajet, même pendant le trajet en bateau, même malgré la tempête. Et puis il va y avoir d'autres insignes d'honneur, certainement, autres que la Légion d'honneur.
Pour le coup, là, en fait, je voulais justement vous montrer en aparté, parce que du coup, pour étayer les propos, les visuels aussi de la deuxième vidéo qui justement parle de cette cérémonie en fait de la remise de la croix de la Légion d'honneur. Donc où on voit en fait en amont, on voit le défilé qui est similaire à celui donc de Châlons-sur-Marne. Et donc après un discours, le cercueil donc reçoit hein, symboliquement, et on voit Monsieur Maginot qui dépose la croix de la Légion d'honneur sur le cercueil. Après quoi, il embarquera à l'USS Olympia à 16h afin de rejoindre donc les États-Unis. Et on voit notamment, cette vidéo se termine par l'arrivée aux États-Unis, à savoir que à ce moment-là, c'est le secrétaire de la guerre qui va recevoir le soldat inconnu américain. Bien entendu, comme vous l'évoquez, hein, toutes les gerbes de fleurs, tout va le suivre jusqu'au bout de son périple, jusqu'aux États-Unis. Et à savoir qu'il sera, comme on l'a dit précédemment, inhumé au même moment que les cérémonies officielles, donc le 11 novembre, donc entre le 25 et le 11, il y a un petit temps. Et donc, il sera posé en sécurité au Pentagone en attendant son enterrement le 11 novembre.
Alors ça, c'est très important. Et on le voit dans les commentaires à l'ancienne, un peu à la Charlie Chaplin de la vidéo. Le soldat inconnu qui est mort pour sauver le monde, pour la paix dans le monde, puisqu'on ne pouvait pas dire il est mort pour sauver la France ou pour sauver son pays, parce que oui, il est mort pour la France. Enfin si, il était mort pour la France quand même, mais d'une manière moins abrupte. Comme il était américain, on dit il était mort pour la paix dans le monde. Et ce soldat qui a quitté son sol natal, qui est jeune, il retourne dans son pays pour y être inhumé, sur son sol natal. Donc là, derrière tout ça, il y a aussi une symbolique qui est très très importante. On va aborder, Laura, le dernier panneau.
C'était ça.
D'accord.
Les vidéos permettaient justement d'expliquer et d'étayer le propos, hein, puisqu'en effet, le dernier panneau finit justement par le fait que John Wick, donc secrétaire de la guerre, reçoit physiquement donc le cercueil une fois arrivé à bon port, donc aux États-Unis.
Alors, c'est très intéressant de voir les vidéos et les photos parce que d'abord, on revoit notre ville telle qu'elle était à l'époque. C'est impressionnant parce que l'hôtel de ville et la place Foch n'ont pas changé du tout. Sauf qu'à l'époque, au centre de la place Foch, il y avait un grand monument qui mettait en honneur je ne sais quel homme politique. Vous le savez, Laura ?
Ça doit être Sadi Carnot qui a été placé aux archives.
J'ai un doute, ça, c'est Gessin ou Sadi Carnot ? Je pense que c'est Carnot.
Parce que du coup, ce buste-là se trouve actuellement dans les jardins des archives départementales rue Carnot.
Et Sadi Carnot était chalonnais ?
Oui.
D'accord, pardon.
Après, chalonnais ou peut-être d'adoption, mais en tout cas, il était au centre de la place.
Tout comme Léon Bourgeois, ou d'accord.
Après, Léon Bourgeois n'était pas chalonnais seulement par...
Oui, il était d'adoption, enfin par mariage, quoi. Mais il a vécu longtemps à Chalon. Il a quand même vécu longtemps à Chalon, donc on peut dire qu'il était chalonnais à la fin, mais même s'il n'était pas de naissance. Et pour Sadi Carnot, j'irai vérifier, mais certainement aussi. Donc, Chalon-Champagne a ses hommes illustres. Et puis, il y a aussi, vous parliez de Gessin tout à l'heure. Vous pouvez nous dire en deux mots qui il s'agit ? C'est quand même quelqu'un qui a visité, qui est allé outre-mer, de l'autre côté de l'Atlantique, et on lui doit en grande partie le fait d'avoir exploité les terres canadiennes. Après, j'en dirai pas plus parce que je ne suis pas historienne et j'ai pas fait non plus de recherche spécifiquement dessus. Et c'est un troisième homme illustre de Chalon-Champagne.
Il y en a trois en fait.
Oui, il y en a trois.
Les archives, voilà. Mais j'ai plus en tête le troisième.
Tout à fait. Alors, l'émission touche quand même à sa fin. On ne va pas pouvoir dépasser, puis je voudrais mettre quand même une petite musique à la fin. Je vous laisse, Laura, parler des dernières archives dont il vous tient à cœur de parler, et avant que je fasse les conclusions.
Donc, les trois dernières vitrines ne sont pas sur la cérémonie de 1921, mais sur l'apposition de la plaque, puisqu'en effet, dans le péristyle de l'hôtel de ville, a été apposée une plaque commémorative en 1939, donc 18 ans après le Shoah. Et pour exposer en fait les documents d'archives, c'est très simple et je vais être assez rapide et synthétique pour finaliser cette émission. Donc à savoir qu'on a exposé un courrier d'avril 1939 qui affirme la date du 4 juillet. Donc la date n'a pas été choisie de façon anodine, contrairement au 24 octobre, puisqu'en effet le 4 juillet était la date de l'indépendance. Donc là, il y a une symbolique qui est plus probante. Ensuite, on a des documents d'archives qui nous montrent justement comment était programmée cette commémoration, cette inauguration. L'inauguration, donc, à savoir, a eu lieu donc, le 4 juillet 1939. Les personnalités politiques et civiles ont été reçues donc à la gare de Châlons-en-Champagne, donc à savoir entre autres Monsieur Bulitz, donc l'ambassadeur américain, Monsieur Marchandeau, garde des Sceaux, Monsieur Chanté de Ribes, ministre des pensionnés et des anciens combattants, que l'on voit arriver place Foch. Ils sont passés, donc, avant d'arriver à l'hôtel de ville, à bord de leur voiture, donc, par la cathédrale Saint-Étienne au monument aux morts à 10h45, et à 11h a eu lieu l'inauguration. Alors, l'inauguration, contrairement à 1921, où on a eu des chalonnais qui ont eu congé, là c'est les enfants qui ont eu congé, je trouve assez anecdotique. Ce sont des écoliers qui ont formé, donc par deux écoliers par école chalonnaise, se sont présentés pour former une délégation sur la demande de l'adjoint au maire, donc qui a proposé cela. Et le maire, donc monsieur Champion, maire de l'époque, a accepté cette requête. Et donc, juste pour finir, hein, quand même, ce qui me semble important et l'archive la plus importante, c'est bien entendu celle-ci. C'est un message que le sergent Edouard F. Jungen a transmis à Châlons pour la communiquer donc en direct lors de l'inauguration, puisqu'en effet, à 11h, lors des discours officiels, donc on peut voir une photographie de Monsieur Chantier de Ribes tenir un discours, et également le discours du maire, donc Monsieur Champion, qui est aussi affiché dans nos archives. Et donc on a tous ces discours-là qui ont été rediffusés en direct, puisque l'administration des PTT donc était sur site et diffusée donc à la radio, ce qui se passait lors de l'inauguration de la plaque, et aussi par le biais d'haut-parleurs dans la ville de Châlons-sur-Marne. Et donc, pour la petite anecdote, on finit donc l'exposition par les commémorations qui lui ont eu lieu, puisque le centenaire n'a pas été la première commémoration. Aux archives, nous, notre première commémoration que l'on conserve est celle de 1981, donc à savoir la 60e commémoration. Mais je vais m'arrêter plutôt sur la 70e, donc 10 ans plus tard, en 91, où on peut voir déjà une première reconstitution avec les 4 cercueils, le dépôt de la rose blanche sur le 3e cercueil. Cette commémoration est illustrée également par l'allocution du maire avec son portrait, donc Monsieur Riz.
À l'époque, c'était Monsieur Jean Ressier. Et je voudrais préciser que Bruno Bourbrock, qui a été très longtemps maire de Châlons-Champagne, juste avant Benoît Paru, le dernier, est allé à Arlington cette année. Mais je vous laisse le dire, peut-être, Laura.
Et justement, donc Monsieur Ressier après Monsieur Bourbrock. Et donc, on finit l'exposition sur justement un des documents que Monsieur Bourbrock, donc notre ancien député maire, nous a ramené d'Arlington, puisqu'il a visité Arlington donc en 2006 et 2011. Et lors de sa dernière visite, lors des cérémonies officielles, il nous a ramené un livret sur lequel on peut voir le tombeau du soldat inconnu américain. Et donc, pour conclure et finalement refaire une boucle, hein, comme vous le disiez au début, donc le tombeau blanc, avec une apposition quand même pas anodine, hein, celle de Châlons-sur-Marne, mais aussi il est toujours surveillé par la garde d'honneur américaine, garde d'honneur qui passe donc 7 jours sur 7 au cimetière. Et donc le tombeau, quand il y a des cérémonies officielles, et je finirai juste par cette dernière petite anecdote, le sergent Jungen est mort en fait dans les années 40 et a été aussi enterré à Arlington. Et quand il y a des cérémonies officielles pour soldats inconnus américains, une gerbe de fleurs est toujours déposée aussi sur celui du sergent Jungen. Donc voilà.
Merci Laura, c'était très intéressant. J'espère qu'on vous aura bientôt pour une prochaine émission sur Châlons, pourquoi pas sur votre métier d'archiviste. C'est très intéressant, le métier d'archiviste, c'est un métier à connaître. Je serais contente de pouvoir le présenter. Ou il y aura peut-être d'autres sujets intéressants. À Châlons, il y a toujours des choses intéressantes. Je voudrais juste préciser qu'il y a beaucoup de tourisme lié à la guerre dans notre région, dans le Grand Est, et notamment entre autres dans la Marne, mais même si c'est aussi le cas en Normandie ou dans la Somme, des hauts lieux, ou alors dans la Meuse ou en Argonne, mais en Lorraine quoi. Donc il y a Verdun, enfin J'incite tous nos auditeurs qui s'intéresseraient à tout ça, à cette époque-là, cette Première Guerre mondiale, à se renseigner un petit peu sur ce qui fait dans nos communes, ce qui se fait dans nos communes, en allant voir les offices tourisme sur Internet, même à distance, avant de se déplacer. Et puis, je voudrais qu'on en conclue avec un témoignage émouvant, c'est celui de l'histoire de la Rose Blanche. Je disais, l'hôtel de ville de Châlons-en-Champagne était tapissé de roses blanches ce 21 octobre 2021 lors de la commémoration du centenaire de cette cérémonie très importante pour les notamment qui marque des rapports d'amitié entre la France et les États-Unis d'Amérique et qui reposant sur des choses positives et concrètes comme la paix dans le monde. Je parlais de la SDN tout à l'heure et je voudrais dire que ces roses blanches sont quand même un très fort symbole, même s'il n'y a pas de lien a priori. On se rappellera tous que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait le parti de la Rose Blanche, un parti formé de lycéens, élèves et d'enseignants du lycée, qui ont été les premiers à résister contre le pouvoir nazi en Allemagne. Et en distribuant des tracts, ils ont tous été fusillés, ils sont tous morts, ils ont tous été assassinés. Et leur symbolique, c'était aussi la Rose Blanche. Ça s'appelait le parti de la Rose Blanche. Donc la Rose Blanche, c'est quand même la rose de la résistance. C'est pas anodin si le soldat américain qui a choisi le soldat inconnu, en l'occurrence le sergent F. Junger de la compagnie de commandement du 2e bataillon du 50e régiment d'infanterie des forces US en Allemagne, héros de guerre s'étant signalé pendant les combats, a choisi un bouquet de roses blanches pour le placer sur la tombe de ce fameux soldat inconnu. Ces roses blanches sont restées sur le cercueil malgré la tempête et les vagues qui essuyaient le cercueil et le catafalque pendant le trajet sur l'Atlantique. Et donc, elles étaient toujours là à l'arrivée. Et ça, je ne peux pas m'empêcher de me souvenir que les Américains nous ont quand même aidés à mettre fin à l'occupation nazie en 1945. Et en hommage à ce geste, et aussi à celui qui a été donné pendant la guerre de 14-18, en faisant venir des soldats américains pour aider la France à lutter contre l'envahisseur allemand, nous allons passer à l'hymne américain. À la semaine prochaine, chers auditeurs.
Au revoir, merci, à bientôt.
And now to honor America, especially the brave men and women serving our nation in the Persian Gulf and throughout the world, please join in the singing of our national anthem. The anthem will be followed by a flyover of F-16 jets from the 56th Tactical Training Wing at MacDill Air Force Base and will be performed by the Florida Orchestra under the direction of Maestro Yaha Ling and sung by Grammy Award winner Whitney Houston.
It's time.